France Inter.
Bonjour à tous et bienvenue au sommaire aujourd'hui. Les portes de la santé vont-elles s'ouvrir pour Nicolas Sarkozy en direct de sa prison ce matin ? Il a défendu sa remise en liberté devant ses juges. Le parquet y est favorable. Décision imminente. Explication dans un instant. À suivre encore, le patron d'un célèbre restaurant de Bordeaux qui agonie ses salariés d'injures racistes. 21 d'entre eux ont déposé plainte. Nous serons également à Rieux-la-Pape, près de Lyon, après le tournage d'un clip de rap qui a semé le chaos ce week-end dans la commune. Un immeuble incendié et des affrontements avec la police. Des soupçons d'euthanasie dans un hôpital de Brive. Le détail dans un instant. Et puis les télés et radios publiques britanniques sont dans la tourmente. Bonjour Gaëlle Joly.
Bonjour.
Le patron de la BBC sommet de s'expliquer.
Après la diffusion d'un montage contesté d'un discours de Donald Trump, deux hauts dirigeants ont dû démissionner et les conservateurs britanniques se frottent les mains.
A tout de suite pour vos précisions en direct de Londres. Nous parlerons aussi de la fin du télé-shopping à la télé et de ce candidat joker. Prêt à se présenter au municipal dans toutes les communes du Jura, ou presque. À partir de 13h30, Duralex, l'usine emblématique de verre français, vient de réussir sa levée de fonds. 5 millions d'euros, mais l'avenir est loin d'être assuré. Est-il encore possible de produire dans notre pays? Son directeur François Marciano est avec nous. 01 45 24 7000 pour vos questions. 13h45, dans la foulée de Duralex, notre feuilleton, nous serons à la cantine.
Tous les collèges, on est tenus, c'est par le budget. Un peu moins de 2 euros par élève, quoi. Donc avec ça, il faut qu'on compose des menus équilibrés, le plus possible bio, en circuit court, et puis de faire au mieux, quoi.
Nous suivons le cuisinier de la cantine de ce collège du Cotentin cette semaine. 13h50, c'est la France. Noirmoutier, première île étoilée de France. Explication Cécilia Arbona. Et puis juste avant 14h, c'est une chanson. Keren Ann demande Bruce Springsteen à Frédéric Pommier. Voilà, vous avez le programme. Merci de passer cette heure avec nous.
France Inter.
Nicolas Sarkozy a-t-il passé sa 20e et dernière nuit à la prison de la santé à Paris la nuit dernière? C'est probable, l'ex-chef de l'État condamné à 5 ans de prison pour avoir tenté via ses proches d'obtenir de l'argent de la Libye pour financer sa campagne de 2007. Nicolas Sarkozy donc demandait ce matin sa remise en liberté. Bonjour Delphine Evenou.
Bonjour Jérôme.
Vous avez suivi cette audience, cour d'appel de Paris. Nicolas Sarkozy est intervenu en visioconférence. Sa famille, elle, était bien présente.
Oui, Jean et Pierre, deux de ses fils, Carla Bruni, son épouse, visage tourné vers cet écran qui se connecte au parloir numéro 3 de la prison de la santé. L'ancien président apparaît en veste bleu marine, sur pull sombre, visage rasé, fermé, mais les traits pas spécialement tirés. Il s'assoit, pose sur la table en fer quelques feuilles, un stylo. « Je répondrai aux questions », annonce-t-il au président. Audience d'une cinquantaine de minutes, Nicolas Sarkozy prend la parole en dernier. Il clame une nouvelle fois son innocence. « J'aime mon pays, je me battrai pour que la vérité triomphe. Je ne vais pas changer d'attitude après 3 semaines à la santé. 3 semaines qu'il décrit comme dures, très dures, éreintantes. Un cauchemar rendu supportable grâce à l'humanité exceptionnelle des personnels pénitentiaires. Salut Nicolas Sarkozy.
Et on s'achemine, Delphine, sauf surprise, vers une remise en liberté.
Oui, attention hein, Jérôme, car la justice sait surprendre. On l'a vu avec ce mandat de dépôt à exécution provisoire différée prononcé lors du jugement le 25 septembre. Mais effectivement, l'avocat général ne s'oppose pas à la demande de remise en liberté de Nicolas Sarkozy. Il estime qu'il a des garanties de représentation d'un niveau rarement atteint. C'est-à-dire qu'il n'a pas de crainte qu'il ne se rende pas aux convocations, pas de crainte qu'il s'enfuit. En revanche, le parquet évoque un risque accru de réitération, car Nicolas Sarkozy a déjà été condamné pour des faits similaires. Risque aussi de concertation et de pression sur les témoins avant le procès en appel. Alors le parquet réclame que cette remise en liberté soit assortie d'un contrôle judiciaire qui interdise tout contact avec les protagonistes du dossier libyen. Nicolas Sarkozy sera fixé dans une demi-heure après 3 semaines d'une détention qui reste inédite pour un ancien président de la République.
Décision attendue effectivement dans les prochaines minutes. On vous retrouve Delphine Evenou dès que l'information est donnée grâce aux moyens techniques de Mickaël Simon. C'est un restaurant qui a pignon sur rue. Depuis des années, dans le centre-ville de Bordeaux, nous sommes en face du Grand Théâtre, le Régent Café, un établissement qui a été le cadre, il y a un mois, d'une explosion d'insultes et de propos racistes de la part du patron envers plusieurs de ses salariés. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour Jérôme.
Ils sont 21 à avoir déposé plainte, vous avez pu vous entretenir avec certains d'entre eux, ils décrivent des scènes très violentes.
Oui, des salariés qui décrivent une déferlante de propos racistes et d'humiliations qui vont durer toute une après-midi.
On leur a dit que vous n'avez pas leur place
face aux clients. On leur a dit qu'ils devaient être à la cave.
Amine est le responsable du café-restaurant Le Régent le 6 octobre dernier. Chacun à leur tour, donc, ses salariés vont essuyer des propos insultants, racistes de la part du propriétaire du restaurant. Propos dont certains que nous ne pouvons pas reproduire ici.
Il a pris un de mes collègues qui était blanc en lui disant qu'il fallait être raciste pour réussir.
Pendant plusieurs heures, donc, chacun des salariés est pris à partie, humilié par leur employeur, raconte Xavier, chef de rang.
Qu'il y avait trop d'étrangers, qu'il allait blanchir tout ça. Il prend un de mes collègues, cette fois-ci sénégalais, et il le prend à part et il lui dit qu'il a de la chance parce qu'il est noir et que les noirs, ça doit rester à la cave. Il y a un de mes collègues qui passait le balai. C'est fou. Il passait le balai, il shoot dedans. Mon collègue lui dit, mais pourquoi vous faites ça? Il lui répond, c'est du travail d'arabe. C'est complètement fou. J'en ai pleuré pendant deux jours. Dès que je racontais cette histoire, ça me prenait vraiment.
En état de choc, donc, devant cette avalanche de propos, cinq salariés du restaurant, dont Xavier, sont depuis en arrêt maladie et décident de porter cette affaire un peu plus loin.
Si notre voix, ce qu'on fait, notre action peut donner la force à d'autres personnes de s'unir et de faire, c'est très bien.
Les 21 salariés ont donc déposé une plainte collective devant le procureur de la République.
Merci Laurent Kramer. À Rieux-la-Pape, commune populaire, 30 000 habitants au nord-est de Lyon. Les habitants sont encore sidérés aujourd'hui par les scènes auxquelles ils ont assisté samedi. Le tournage d'un clip de rap en pleine rue sans autorisation a mal tourné, déclenchant un incendie dans un immeuble. 5 appartements ont été détruits. Bonjour Mathilde Imberti.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Lyon en direct de Rieux-la-Pape. Que s'est-il passé, Mathilde?
Bah écoutez, vous l'avez dit, c'est un groupe qui tourne samedi après-midi un clip sur une petite place de Rieux-la-Pape, un quartier populaire très dense. Ils sont équipés de mortiers d'artifice, surveillés par la police qui est au courant. Le tournage n'a pas été déclaré. On ne sait pas exactement comment le dialogue a dérapé. Toujours est-il qu'un des mortiers part de ce petit groupe, raconte un témoin direct. Il habite juste au-dessus.
Le mortier, il est tiré de là, vers le relais assistante maternelle. Il atterrit sur au premier étage, là. L'incendie est parti, mais à un certain moment, les flammes montaient au moins 10 mètres au-dessus du bâtiment. Et la fumée, alors on n'en parle pas.
Voilà, c'était impressionnant, décrivent les habitants. La façade est encore éventrée par les flammes. Cela fait 39 personnes à la rue. Et le maire Horizon, Alexandre Vincendet, a craint le pire.
Moi, ma crainte, quand on m'a appelé pour me dire que le feu prenait, c'était qu'il y ait des morts. Fort heureusement, il n'y en a pas eu. Grâce à certains habitants qui, en effet, ont fait preuve de courage, grâce aux forces de sécurité, aux policiers et aux pompiers. Ce que je trouve inacceptable, c'est qu'il n'y ait pas une condamnation unanime de ces actes par certains pour des questions politiciennes. Je trouve ça franchement dégueulasse.
Il n'y a aucun doute sur l'origine du feu, d'après le maire. D'ailleurs, les caméras de surveillance fonctionnaient, dit-il, et l'enquête progresse.
Tout cela dans un contexte local déjà tendu, Mathilde.
Alors oui, à Rieux, les échauffourées ne sont pas rares. La police municipale est d'ailleurs armée au maximum de ce que permet la loi. Et vous allez l'entendre, l'opposition dénonce un climat d'embrasement. Édouard Raffin, par exemple, que j'ai croisé devant l'immeuble incendié, il critique les méthodes policières.
Une fois que les flammes sont en train d'être maîtrisées, il y a cet habitant très en colère et qui va passer le cordon de sécurité et qui va créer une réaction de la police. Et ils vont gazer l'ensemble de la foule qui est présente. Il y a un tel niveau de tension à chaque instant, on peut arriver à des incidents comme ça.
De la tension et le ministre de la ville va se rendre sur place cet après-midi, Jérôme.
39 personnes, dit le maire, sont à reloger, dont des femmes, des enfants, des bébés. Et les habitants de la commune se montrent solidaires, Mathilde.
Oui, là aussi c'est impressionnant, des dizaines de sacs sont stockés en mairie, des vêtements, des produits d'hygiène apportés spontanément par la population. Et la ville de Rieux prépare des kits scolaires pour aider les enfants qui ont tout perdu dans l'incendie. Ils sont logés actuellement dans un centre aéré avec leur famille.
Merci Mathilde Imberti en direct de Rieux-la-Pape pour Inter. À quelques jours des commémorations des attentats du 13 novembre 2015, le parquet national antiterroriste annonce il y a quelques minutes avoir ouvert deux informations judiciaires distinctes. L'une concerne Salah Abdeslam, le seul survivant des commandos du 13 novembre. Il est donc mis en examen. Il lui est reproché d'avoir reçu de la part de sa compagne une clé USB alors qu'il est actuellement en détention. Et puis l'autre information judiciaire est ouverte concernant un projet d'attentat et elle concerne là son ex-compagne. Mais Salah Abdeslam n'est pas impliqué dans ce projet d'attentat, nous dit à l'instant le parquet national antiterroriste. Que s'est-il passé le mois dernier ? à l'hôpital de Brive, en Corrèze. Que s'est-il passé pour que la direction de cet établissement décide d'alerter le procureur de la République ? Bonjour Victor Delande.
Bonjour Jérôme.
Plusieurs soignants évoquent sur place des décès suspects au sein de l'hôpital.
Oui, ce sont deux médecins et trois personnels paramédicaux du service de réanimation qui ont décidé de faire remonter des faits graves. On parle de cas d'euthanasie active. C'est en tout cas les mots du syndicat CFDT qui a lancé l'alerte. Un service de réanimation qui par ailleurs connaît des dysfonctionnements depuis des années. Tout le monde sait ce qu'il se passe en réa, mais tout le monde se tait, me confie-t-on au centre hospitalier de Brive. Fin septembre, début octobre, les LATA n'auraient pas été respectés. Les LATA, c'est la limitation des thérapeutiques pour un patient en fin de vie, une procédure qui doit être collégiale, des personnels médicaux, des paramédicaux, un médecin extérieur au service et des familles qui sont associées à la décision d'arrêt des soins. Sauf que ces procédures n'auraient tout simplement pas été respectées. Des médecins auraient décidé de manière unilatérale d'arrêter les soins. Face à la gravité des faits reprochés, la CFDT a immédiatement déposé plainte, alerté la direction générale de l'offre de soins qui dépend du ministère de la Santé. La procureure de la République de Brive a donc ouvert une enquête préliminaire pour faire la lumière sur ces graves accusations. Mais pour le moment, selon nos informations, aucun des médecins mis en cause dans cette affaire n'a été suspendu à titre conservatoire.
Information signée Victor Delande. Un policier grièvement blessé au bras la nuit dernière près de Bourges. Il intervenait avec ses collègues pour empêcher des malfaiteurs de pénétrer dans une banque. Les deux cambrioleurs ont ouvert le feu. L'un d'eux a donc touché un policier de la brigade anticriminalité de Bourges. Les deux hommes ont pris la fuite. Tout est mis en œuvre pour retrouver ces voyous criminels. Réagit ce matin le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez.
France Inter, le 13-14. Jérôme Cadet.
Les djihadistes maliens qui asphyxient Bamako veulent renverser les militaires au pouvoir et installer un califat. Les mots du chef des services de renseignement extérieur français, c'était ce matin sur France Inter, Nicolas Lerner, qui alerte sur le blocus qui prive depuis plusieurs jours maintenant la capitale malienne d'essence. Vendredi, la France a même recommandé à ses ressortissants de quitter le pays temporairement et dès que possible. Et c'est dans ce contexte qu'on apprend aujourd'hui la mort d'une jeune malienne qui était très suivie sur le réseau social TikTok. Bonjour Nathanaël Charbonnier.
Bonjour.
Elle a été assassinée vendredi en public dans le nord du Mali par des djihadistes présumés. Il l'accusait de collaborer avec l'armée malienne.
Oui, les djihadistes s'en sont pris donc à Mariam Cissé, jeune malienne âgée d'une vingtaine d'années, dont la seule erreur est d'avoir, vous l'avez dit, eh bien, filmé son quotidien sur l'application TikTok. Ici, on peut la voir s'amuser avec une amie, le corps plongé dans le fleuve Niger. Et puis ici, on peut la voir faire des grimaces devant un mur en écoutant un morceau de musique. Une vie d'adolescente volée par des djihadistes qui quadrillent presque l'ensemble du pays. La jeune Mariam habitait la ville de Tonka, c'est au nord Mali, 50 000 habitants, où les terroristes semblent aller et venir avec une incroyable facilité, mais on sait qu'ils se trouvent aussi dans le sud Mali, où ils imposent depuis le mois de septembre blocus à la capitale Bamako, avec des pénuries notamment de carburant. Une vie d'adolescente volée par des djihadistes qui dictent aussi leurs lois sur tout le territoire, ou presque. Dans le cas présent, la jeune Mariam a été fusillée car soupçonnée, vous l'avez évoqué, d'informer l'armée malienne. Information peu crédible, de toute façon impossible à vérifier. Ce que l'on sait en revanche, c'est que les djihadistes ont récemment émis des règles pour les voyageurs. Ils exigent le port du voile pour les femmes et leur séparation des hommes dans les transports urbains.
Nathanaël Charbonnier, voilà près d'un an qu'il est détenu en Algérie. Proposition allemande ce matin pour aider à la libération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal. Le président allemand Frank-Walter Steinmeier appelle son homologue algérien à le gracier. Il propose aussi que Boualem Sansal puisse être transféré en Allemagne pour y bénéficier, je cite, de soins médicaux. L'Allemagne, où s'est ouvert ce matin le procès de l'auteur de l'attaque de Magdebourg dans l'est du pays. Attaque à la voiture Bélier contre le marché de Noël de la ville. C'était le 20 décembre 2024. Bilan 6 morts et plus de 300 blessés. L'accusé est un médecin saoudien connu pour sa haine de l'islam, réfugié en Allemagne depuis près de 20 ans, il risque la prison à vie. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondant à Berlin. Sébastien, 47 jours d'audience prévus jusqu'en mars prochain.
Oui, c'est un procès marathon, Jérôme, un procès hors norme aussi, l'un des plus importants de l'après-guerre, avec des audiences réparties sur 4 mois, 150 parties civiles et un acte d'accusation de plus de 200 pages. Pour accueillir les débats, il a fallu construire une salle d'audience provisoire de 2000 mètres carrés et 700 places. Ce matin, l'accusé a été transféré en hélicoptère jusqu'au palais de justice. Le tribunal va visionner tout à l'heure les brutales images de l'attaque. On y voit, pendant 64 secondes, cet homme qui zigzague dans la foule à bord de sa puissante BMW et qui accélère à plusieurs reprises. Selon l'accusation, l'assaillant voulait tuer le plus de personnes possible. Ce psychiatre saoudien de 51 ans, islamophobe et qui se nourrissait de théories complotistes, vivait en Allemagne depuis 2006. Il explique être passé à l'acte par frustration pour dénoncer le manque de soutien des autorités aux réfugiés. Cette attaque en pleine campagne des législatives avait radicalisé le débat sur l'immigration et la sécurité. 3 jours après le drame, l'AFD, l'extrême droite, avait organisé un rassemblement à Magdebourg pour réclamer la fermeture des frontières.
Sébastien Baer, à Berlin pour Inter. Au Royaume-Uni, c'est la crise à la BBC, l'audiovisuel public britannique qui fait la une après la démission hier de son directeur général et de la patronne de sa chaîne d'information, BBC News. C'est au tour de son président de s'expliquer aujourd'hui, en cause notamment un documentaire diffusé il y a un an et consacré à la campagne électorale américaine. Gaël Joly, on vous retrouve en direct de Londres. Des propos du président américain Donald Trump, qui était alors candidat, ont été déformés dans ce reportage. De quoi s'agit-il précisément ?
Voilà, pour bien comprendre, il faut remonter un an en arrière. C'était en octobre 2024, à quelques jours de l'élection présidentielle. La BBC diffuse son documentaire sur Donald Trump avec ce discours du président qui semble inciter ses partisans à prendre d'assaut le Capitole et à se battre comme des diables. Sauf que les propos de Donald Trump ont été montés avec un autre extrait intervenu 50 minutes plus tard. Un montage révélé par le journal conservateur The Telegraph la semaine dernière, alors que la BBC avait déjà été sanctionnée il y a 3 semaines après la diffusion d'un autre documentaire sur Gaza, raconté par un enfant qui était en réalité le fils d'un haut responsable du Hamas. Donald Trump a dénoncé hier des journalistes corrompus.
C'est une faute grave donc, Gaëlle. Et elle donne des arguments aux conservateurs britanniques. Il y a aussi une dimension politique dans cette affaire.
Eh oui, parce que la droite politique britannique réclame depuis des années la privatisation de la BBC. L'ancienne première ministre Liz Truss n'a d'ailleurs pas tardé à retweeter les messages triomphants de Donald Trump. Ce raté, écrit-elle, devrait marquer la fin de la radio publique. Alors que Nigel Farage, le chef du parti d'extrême droite Reform UK, a appelé un changement de fond en comble du groupe public. Le seul à défendre la BBC, c'est le chef de file des démocrates libéraux qui a appelé le gouvernement à défendre la BBC face à Donald Trump et la sphère MAGA. Une polémique qui tombe d'autant plus mal que la BBC doit renégocier d'ici fin 2027 son nouveau contrat de mission avec le gouvernement.
Gaël Joly en direct de Londres. Un port industriel au nord du Brésil, dans l'estuaire de 2 grands fleuves. Tout cela aux portes de l'Amazonie qui accueille depuis ce matin le 30e sommet annuel pour le climat. C'est Belém, le Brésil du président Lula, qui souhaite tout à la fois produire davantage de pétrole, mais aussi protéger ses forêts. Bonjour Sandy Dauphin.
Bonjour.
Vous êtes à Belém pour Inter. À quoi sont consacrées ces premières heures de négociation, Sandy ?
Eh bien, les représentants des 170 pays vont se réunir une première fois tous ensemble dans 1 heure pour la cérémonie d'ouverture officielle qui sera lancée par le président Lula. Et le monsieur climat des Nations Unies, Simon Stills, il y aura des discours, des sortes de causeries d'avant-match. D'ici là, eh bien, dans les longs couloirs des tentes géantes climatisées, les délégations finissent d'installer leur pavillon. Ça sent encore la peinture fraîche. C'est un peu la vitrine de chaque pays, comme dans une exposition universelle. Tout à l'heure, devant le pavillon indonésien, des danseurs en habits traditionnels répétaient une chorégraphie, un peu de légèreté avant de rentrer dans le vif du sujet.
L'objectif des Brésiliens, Sandy, c'est aussi de faire une plus grande place à la société civile cette année. Et vous avez constaté par exemple que l'ONG Greenpeace avait pu amarrer son vaisseau, le Rainbow Warrior, dans le port de Belém pour le faire visiter au grand public. Il y avait du monde hier.
Oui, il y avait une très longue file d'attente pour monter à bord. Dans la foule, on a croisé Renata, cette étudiante, se sent concernée par la COP, elle espère que les gens d'ici seront écoutés.
Nous sommes des habitants de l'Amazonie, c'est notre héritage, notre patrimoine. Donc cela n'a aucun sens que des personnes extérieures ou des personnes en position de pouvoir prennent des décisions à notre place, nous qui vivons ici.
Le Rainbow Warrior a hissé une banderole entre ces deux immenses mâts avec trois mots écrits dessus, action, justice, espoir. Une quarantaine de bénévoles assurent les visites guidées.
Bienvenue au Rainbow Warrior, comme vous pouvez voir.
Jean-François Julliard, directeur de Greenpeace France.
Il y a beaucoup de familles, il y a beaucoup d'enfants, c'est un vrai succès. Nous, ça nous permet aussi d'envoyer un message aux autorités du monde entier qui sont en ce moment à Belém, de dire c'est un sujet qui intéresse les gens, il y a une mobilisation forte, soyez à la hauteur.
La société civile sera présente en nombre à Belém, affirme Romulo Batista. C'est le porte-parole de Greenpeace Brésil.
On va voir à Belém quelque chose de très spécial. On attend près de 3000 dirigeants de peuples autochtones. Il y aura autant de représentants de communautés locales. Il y aura aussi des mouvements sociaux comme les paysans sans terre. Ils seront tous ici pour cette COP.
Et ils participeront tous à une grande parade fluviale ce mercredi à Belém sur l'estuaire de l'Amazone.
Sandy Dauphin en direct du Brésil avec Olivia Branger. De 70 à 80% de cabinets de radiologie fermés aujourd'hui, selon l'estimation de leur syndicat, la Fédération nationale des médecins radiologues. Ils protestent contre les baisses de tarifs inspirées, imposées par l'assurance maladie. 300 millions d'euros en moins d'ici 2027. Argument de ces radiologues pour se mettre en grève, certaines petites structures ne pourront pas survivre. Et il se trouve que ce sujet était en débat hier soir à l'Assemblée nationale dans le cadre de l'examen du budget de la Sécurité sociale pour l'an prochain. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Les députés ont adopté un amendement socialiste pour réguler les revenus de professionnels de santé. On parle des labos, de spécialistes ou encore des cabinets de radiologie. Tout cela alors que la Sécu, en juin dernier, pointait des excès dans leur rémunération.
Oui, dans ce rapport annuel, Jérôme, sur ses charges, l'assurance maladie s'était interrogée, je cite, sur des rendements excessifs de certains secteurs. Secteurs souvent pointés pour leur financiarisation, des entreprises rachetées par des groupes étrangers notamment. Des rendements dénoncés dans l'hémicycle hier par la députée socialiste Sabine Runel.
Je ne connais que peu de secteurs qui font autant de bénéfices. 23% pour la biologie, 27% en radiothérapie. 16% en radiologie.
Elle propose donc cet amendement pour d'abord définir un seuil de rentabilité par décret du ministère de la Santé, puis, s'il est dépassé, la ministre pourra baisser d'autorité le tarif de certains actes pris en charge par la Sécu, mais une baisse généralisée de ces tarifs d'échographie ou de certaines analyses médicales pourrait aussi pénaliser certains petits cabinets ou laboratoires, rétorque le républicain Thibaut Bazin, rapporteur général du projet de loi de finances de la Sécu.
Le 16% est une moyenne. Attention aux moyennes, parce que la réalité des rentabilités peut vraiment varier en fonction des territoires. Et les petits cabinets dans les territoires ruraux, les chiffres de rentabilité sont de 2%.
Un même avis pour la ministre de la Santé opposée à cet amendement. Elle reconnaît qu'il faudrait cibler les acteurs qui réalisent ces rendements abusifs. On parle en tout de 13 milliards d'euros de dépenses pour l'assurance maladie. La députée Sabine Runel espère, avec son amendement finalement adopté, réaliser 1 milliard d'économies.
Rémi Brancato, la situation politique instable, la pression sur les élus locaux. Tout cela va-t-il dissuader les bonnes volontés de se présenter dans 4 mois aux élections municipales? Nous le verrons en tout cas dans le département du Jura. Un jeune homme fait déjà campagne, même s'il ne s'est déclaré dans aucune commune. Il se présente en fait comme candidat joker, c'est-à-dire à la disposition d'une commune dans laquelle il n'y aurait pas de candidat. Margot Nunoz, vous l'avez rencontré en pleine séance de collège à Nozeroy.
Juste à côté d'un arrêt de bus dans la commune de Longcochon, un grand panneau en liège.
Là, je suis en train de coller une affiche qui a pour titre « Aurez-vous un maire en 2026 ?»
Le garçon de 24 ans s'applique à planter ses punaises rouges. La démarche est très sérieuse.
Dans le Jura, on a énormément de communes, un quart des communes qui a moins de 100 habitants. Chaque commune a son identité et ce serait dommage de voir une commune disparaître pour être englobée et fusionnée dans une autre. Donc, je suis là pour les communes qui n'ont pas de candidat. Et là, on va aller dans le village de Bidicu.
Louis Marino veut porter l'écharpe dans le Haut-Jura, un territoire rural, moins de 100 000 habitants.
Moi, je suis très attaché à la Franche-Comté et au Jura, notamment. Au Jura, il y a encore cet esprit de village qu'on ne retrouve pas plus trop dans le Nord à cause de ces rapprochements entre Besançon et Dole.
Pour se présenter, un candidat doit posséder un bien dans la commune. Mais ce n'est pas un problème pour le futur maire, déjà prêt à faire ses cartons.
J'avais envie de déménager dans le Haut-Jura. Et j'aime beaucoup la politique. Du coup, je me suis dit, autant faire d'une pierre deux coups. On se plaint parfois que la jeunesse ne s'investit pas dans les associations, que ce soit culturelles, sportives ou jusqu'au politique, donc je me suis dit pourquoi ne pas me lancer dans le projet.
Pour faire connaître sa démarche, Louis Marino communique aussi de manière plus moderne. Il vient d'envoyer des mails aux maires en poste dans le Haut-Jura.
Et pour être candidat, il faudra tout de même qu'il soit inscrit sur les listes électorales de sa commune de choix, tout cela avant le 1er janvier. Margot Munoz, ici Besançon. Et voilà une filière qui respire et refait surface. La filière du foie gras, après plusieurs années d'épizootie de grippe aviaire, les éleveurs et producteurs retrouvent de la sérénité. La production est au rendez-vous à un peu plus d'un mois des fêtes. Les professionnels sont désormais plutôt confiants, Mariam El Kurdi.
Même si le début de saison est marqué par quelques foyers de grippe aviaire, la situation n'a rien à voir dans les élevages avec la dure période d'avant 2023. Le risque sanitaire est modéré. Les professionnels, certes prudents mais sereins. Bruno Traverse est le directeur de la coopérative de producteurs de foie gras de la marque Maison Montfort.
La production, elle se porte plutôt bien grâce à la vaccination contre l'influenza aviaire qui nous a permis d'avoir des animaux sains qui permettent de produire de bons foie gras et qui nous permettent d'éviter les crises à répétition comme on a pu les connaître par le passé. On appréhende plutôt positivement ces fêtes de fin d'année.
Seul regret des professionnels, la prudence des grandes enseignes avec des commandes en baisse par rapport à l'an dernier. La filière est touchée par la crise du pouvoir d'achat, doit aussi reconnaître Marie-Pierre P, directrice du comité interprofessionnel du foie gras.
Historiquement, les Français sont très friands de foie gras. Par exemple, le pourcentage de ménages acheteurs avoisinait les 45%. C'était en 2015, avant les premières crises sanitaires. Aujourd'hui, nous sommes à peine à entre 35 et 40.
L'achat plaisir sera-t-il suffisamment au rendez-vous? C'est la grande inconnue à un peu plus d'un mois des fêtes de fin d'année.
Mariam El Kurdi, cela vous avait peut-être échappé, c'est mon cas. L'une des émissions emblématiques de la télévision française, le Téléshopping, était toujours à l'antenne sur TF1, programmée le matin. Et bien l'émission inspirée des télévitrines américaines, cette émission lancée par Pierre Belmar, 1987, va s'arrêter à la fin de l'année. Bonjour Julien Baldacchino.
Bonjour.
La dernière est prévue pour le 31 décembre.
Oui, cela nous a été confirmé par des sources internes. Silence radio en revanche du côté de la direction de la chaîne TF1, mais l'émission s'arrêtera bien après 38 ans de diffusion. Elle était déjà en suspens depuis cet été. L'émission Bonjour qui la précède a été prolongée et Téléshopping décalé d'une demi-heure. Selon nos informations, c'est l'Extra, la société qui produit à la fois Téléshopping et M6 Boutique sur la chaîne concurrente, va devoir supprimer une partie de ses effectifs.
Comment s'explique cet arrêt ?
Eh bien, tout simplement, une audience trop faible. Selon Le Parisien, c'est l'émission la moins regardée de toute la grille de TF1. On est loin de l'époque de Pierre Belmar, puis de Laurent Cabrol et Catherine Falgérac qui vendaient tout type de produits.
Après les nouveautés, voici la tradition, puisque nous avons ici le Formule 9 avec François. Ouais,
c'est un produit vedette. Finalement, ça, c'est un produit qui est utilisé déjà dans la compétition automobile et que vous allez pouvoir acquérir de telle façon à faire une cure de jouvence avec votre automobile. C'est en quelque sorte de la vitamine C pour votre moteur. Ouais. Le Formule 9, on regarde son prix tout de suite qui s'affiche sur l'écran.
Avec en best-seller non pas ce Formule 9 à 195 francs, mais l'aérosol barrage anti-insectes vendu tout de même à plus de 7 millions d'exemplaires. L'émission n'a pas survécu au e-commerce, même si aujourd'hui Téléshopping c'est aussi un site de vente en ligne. Depuis plusieurs années, TF1 s'était d'ailleurs séparé de l'entreprise Téléshopping qui n'était plus une de ses filiales, mais une société externe dont le contrat avec la chaîne va donc s'arrêter.
Merci Julien Baldacchino. Voilà, Daniel Morin va devoir trouver un autre générique pour habiller ses chroniques. 13h28 sur Inter. À suivre dans la prochaine demi-heure, la météo de Stéphanie Fromentin. Puis à partir de 13h30, passion du Ralex. Des milliers de Français ont participé la semaine dernière à la levée de fonds de l'entreprise. Plus de 5 millions récoltés, alors que 18-19 millions d'euros récoltés, 5 millions étaient demandés au départ. Qu'est-ce que ça veut dire ? Cela va-t-il suffire à sauver cette entreprise emblématique ? 01 45 24 7000 pour vos questions à François Marciano, son directeur avec nous. 13h45, notre feuilleton, la vie d'un cuisinier de cantine. Nous serons à 40 ans dans la Manche. Puis 13h50, c'est la France et c'est une chanson. Cécilia Arbona, Frédéric Pommier, bonjour à tous les deux.
Bonjour Jérôme.
Cécilia, vous nous parlez des étoiles.
Et c'est beau, une île qui scintille la nuit, non ? Eh bien, Noirmoutier en Vendée est récompensé pour son engagement contre la pollution lumineuse nocturne.
Et avec vous, Frédéric, une chanteuse.
Kerenan, qui partira l'année prochaine en tournée avec Paris Amour, son nouvel album. Et avec elle, c'est un titre de Bruce Springsteen que nous écouterons, l'histoire de deux frères. Kerenan m'a parlé du sien.
Merci à tous les deux et à tout à l'heure. France
France Inter, 15h, Fabrice Drouel.
Ce lundi, je vous raconte la polémique provoquée en avril 1966 par la pièce de Jean Genet, Les Paravents, au théâtre de l'Odéon à Paris, sur le thème sulfureux de la guerre d'Algérie.
Affaires sensibles, tous les jours à 15h, sur France Inter.
Houston, ça y est, on a la solution contre la hausse des prix. Pas besoin d'aller sur la Lune pour protéger son pouvoir d'achat.
Découvrez Bleu Blanc Paye, les e-cartes qui protègent votre pouvoir d'achat. Bleu Blanc Paye, votre garantie anti-inflation. Rendez-vous sur bleublanc-paye.fr. Remboursement sur la base du taux d'inflation INSEE-IPC activable uniquement le jour anniversaire de la date de votre premier achat d'e-carte. Voir conditions sur bleublanc-paye.fr.
Écouter la radio en DAB+, c'est avoir plus de stations avec une qualité optimale. Pour en profiter à la maison, il vous faut une radio compatible DAB+. Et c'est tout. Plus d'infos sur ensemble-pour-le-dab+.fr.
DAB+.
Trois lettres pour une révolution de la radio. Et pour les fêtes, si vous cherchez une bonne idée cadeau, offrez une radio DAB+.
Le temps de votre après-midi.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Stéphanie Fromentin.
Bonjour Jérôme, bonjour à toutes et tous.
Un ciel majoritairement gris cet après-midi.
Oui, le temps couvert gagne les régions qui s'étendent de la Champagne-Ardenne à la Lorraine jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine. Les nuages pourront lâcher quelques gouttes. Ce passage pluvieux circule aussi de manière plus marquée de la Haute-Normandie et des Hauts-de-France jusqu'au Poitou. Tandis qu'en remontant vers le nord-ouest, les averses parfois orageuses sur la Manche alternent avec de belles éclaircies. En allant vers l'est, le temps reste sec. Il offre même un ciel ensoleillé malgré un voile fin qui résiste et exception faite du nord de l'Alsace et de l'est de la Bourgogne, qui pourrait rester sous la grisaille. Le vent, lui, continue de souffler. Il balaye le nord-ouest de rafale, pouvant atteindre les 50 km/h dans les terres, 60 à 70 sur les côtes.
Et des températures plutôt homogènes.
11 à 16 degrés du nord au sud, 17 à 20 en Aquitaine comme autour de la Méditerranée. Il fera 11 degrés à Besançon, mais 8 à Longchamp, 13 à Paris comme à Lyon.
Dans le Jura.
Dans le Jura. 16 degrés à Montluçon, 17 à Tarascon, mais 19 à Saint-Girons.
Stéphanie Fromentin.
France Inter, le 13-14, Jérôme Cadet.
Bonjour François Marciano.
Bonjour Jérôme.
Directeur de Duralex, l'emblématique fabricant de verre français, la Chapelle Saint-Mémin, tout près d'Orléans, j'allais dire heureux de vous retrouver, vous auriez dû être avec nous en studio, François Marciano. Petite panne de voiture et vous voilà contraint d'aller plus précisément chez nos confrères d'ici Orléans.
Je me demande si j'avais pas une batterie chinoise.
Ah, ouais. Je ne sais pas, je ne rentre pas dans ce débat-là. En tout cas, on est heureux de vous entendre et je remercie les collègues d'ici Orléans de nous avoir permis de réaliser cette interview malgré ces petite péripétie de voiture. Bref, nous nous connaissons et les auditeurs du 13-14 vous connaissent, François Marciano, puisque nous étions venus chez vous en tout début d'année 2025 pour une émission spéciale. Nous avions parlé ensemble de la reprise de Duralex par une partie de ses salariés, réunis dans une société coopérative et participative. Une SCOP, ça c'était il y a un an et demi, on avait parlé de vos projets pour relancer les ventes, pour sauver Duralex. 80 ans d'histoire. Et vous venez de réussir une levée de fonds impressionnante. Vous aviez besoin de 5 millions d'euros et vous avez rassemblé lundi dernier en quelques heures plus de 18 millions de promesses, preuve de l'attachement des Français à votre marque, même si on va le voir ensemble, Duralex n'est pas encore totalement sauvé. 01 45 24 7000, pour les auditeurs qui veulent vous interroger, François Marciano, vous ne vous attendiez pas à ce que cette levée de fonds suscite autant d'enthousiasme?
Alors, absolument pas, Jérôme. On pensait, nous, faire 5 millions. Alors déjà, on pensait faire 3 millions en 5 semaines. Et on s'était dit, on poussera peut-être d'une semaine ou deux pour essayer d'atteindre les 5 millions. Et en fait, en 5h40, on a eu 5 millions. Et en 24 heures, 19 millions de promesses. Donc oui, on était contents. Maintenant, l'autorité de marché nous bloque à 5 millions. Donc on ne peut pas aller au-delà de 5 millions. Mais nos besoins sont bien supérieurs à 5 millions.
Combien de personnes ont voulu vous prêter?
Alors, on est à 2771 personnes.
22 000 personnes pour 19 millions d'euros de levée de fonds. Ils vont obtenir quoi? Des titres participatifs, c'est ça? Qu'est-ce que c'est?
C'est ça, ce sont des titres participatifs, hein, donc des titres comme quoi ils participent à la SCOP, hein, donc ça ne donne droit à aucun vote, à rien du tout, sauf que ils ont un rapport mensuel de l'activité de Duralex, et c'est rémunéré 8% par an.
Alors, 19 millions de promesses et 5 millions seulement de levée de fonds, ça veut dire que certains ne seront pas retenus? Comment vous allez sélectionner maintenant?
Alors, on est bien embêtés. Hein. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a bloqué quand on a vu que ça montait à 19 millions, parce que on voulait pas frustrer les personnes. Et donc, on s'est dit, on va certainement bloquer à 1000 euros et pour faire profiter un maximum de personnes jusqu'à hauteur de 5 millions. Donc, le 17, quand ça va ouvrir, les premiers qui arriveront seront les premiers servis et à 17 millions, à 5 millions, on arrêtera.
Voilà, donc il y aura peut-être autant de monde concerné, mais peut-être que les sommes seront moins importantes. Il faut confirmer maintenant cette levée de fonds, c'est ça, c'est à partir du 17.
C'est ça, le 17, ils vont confirmer. Hein,
les 17 novembre.
C'est ça, le 17 novembre. Et le 18, certainement, si on a atteint les 5 millions, on pense ouvrir une cagnotte à côté parce que il y a plein de gens qui nous envoient des chèques, mais dans une entreprise, on ne peut pas encaisser, heureusement, des chèques comme ça.
Il y a des gens qui vous envoient des chèques contre rien du tout.
Contre rien du tout, oui, pour dire on vous soutient, on veut absolument que Duralex soit sauvé, faites le nécessaire, et ça va de chèques de 30, 100, 150, 1000 euros.
Mais contre, ils veulent pas acheter de
ah non, non,
de
ils veulent rien,
c'est juste
ils veulent
donner.
Rien.
D'accord.
Sauf que moi, je peux pas les encaisser parce que c'est heureusement en France, on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut et c'est normal. Et donc, on va certainement ouvrir une cagnotte après la levée de fonds parce que on veut pas décevoir les gens. Et puis, de toute façon, pour être clair, j'ai besoin absolument. Nous avons besoin avec les équipes d'investir chez Duralex. 30 ans sans investissement, imaginez tout ce qu'il y a à faire. Hein.
On va parler de vos projets dans un instant. D'abord, un dernier mot sur cette levée de fonds, il faut dire qu'elle était très intéressante. C'est rémunérateur, 8% par an, ça veut dire que je prête 1000 euros, je gagne 80 euros par an, c'est ça?
C'est ça, mais François parce Marciano. Que c'est risqué. Parce que c'est risqué, il faut le rappeler aux auditeurs. Hein. C'est toujours pareil. Hein. On rémunère au niveau du risque. Hein. Donc c'est des placements, c'est pas un livret A. Un livret A, vous mettez l'argent, il n'y a aucun risque. Là, allez, on va faire une supposition. Dans 2 ans, l'énergie explose. Duralex n'est plus rentable. On doit fermer Duralex. Les gens ont tout perdu. Hein.
Ça va donc vous coûter cher. Si mes calculs sont bons, c'est 400 000 euros par an. C'est 8%
c'est exactement
de 5
ça.
Millions d'euros. Faut sortir 400 000 euros par an pour avoir de l'argent frais. Pourquoi pas avoir fait un prêt bancaire traditionnel et qui peut-être vous aurait coûté moins cher?
Alors, effectivement, peut-être que ça nous aurait coûté moins cher, mais pour avoir accès au prêt, il faut sortir un bilan. Le bilan, nous, on va pouvoir le sortir au 31 décembre, puis les commissaires aux comptes vont valider ce bilan, puis après, on va le publier, et donc, une fois qu'il est publié, là, vous pouvez aller voir vos banques, et puis dire, bon, bah maintenant, on a un bilan, on peut se mettre autour de la table, est-ce que vous nous prêtez de l'argent? Le problème, c'est que là, on arrive en juin l'année prochaine, hein, donc si on se débrouille bien, ça veut dire que l'argent, au mois de juillet, l'année est foutue, quoi, hein, parce que on va lancer dès maintenant nos premières commandes de nouveautés. Les premières nouveautés tomberont en juin. Hein.
Donc vous aviez besoin d'argent rapidement.
C'est ça, ouais, c'est exactement
d'où
ça.
Le choix de passer par cette levée de fonds, peut-être plus coûteuse pour vous, mais qui va vous permettre de le faire travailler rapidement. Pourquoi faire, François Marciano, de nouveaux produits, de nouveaux modèles?
Alors, cette levée de fonds va permettre de faire pour la moitié de la somme des nouveaux modèles. Hein, donc, on a fait appel à des designers qui sont en train de regarder pour sortir les Duralex de demain, les nouveaux gobelets, la nouvelle conservation et les nouveaux contenants. Par contre, on a une autre partie de cet argent qui va servir à investir dans des machines d'emballage nous permettant d'accéder à des marchés auxquels nous ne pouvons pas actuellement prétendre. C'est les marchés, ce qu'on appelle B2B, hein, business to business. Je vais vous donner un exemple. Nous, on a ici sur Orléans les moutardes Martin Pourré qui aimeraient bien travailler avec nous.
Ouais.
Et pour cela, on a besoin d'une machine spéciale qui est une machine vrac, hein, qui emballe en vrac. Et lui, il a la partie qui dépalettise automatiquement, donc on a absolument besoin de cette machine, c'est 1,2 million.
Robert nous appelle d'Angers, bonjour Robert.
Bonjour monsieur.
Nous vous écoutons.
Alors écoutez, je crois connaître le slogan la loi est dure, et Sedlex, Duralex.
Duralex, Sedlex, la loi est dure mais c'est la loi.
Duralex, Sedlex. Voilà, alors effectivement Duralex, Sedlex, Duralex c'est effectivement très résistant, c'est les verres qui ont des qualités... remarquable, cette technicité.
Votre question, Robert, on a beaucoup d'appels, je vous écoute.
Alors, est-ce qu'il ne faudrait pas assouplir la réglementation du travail de manière à permettre à une entreprise comme Duralex de se tenir à flot.
Vous pensez à un article en particulier, vous pensez à une législation particulière, 35 heures.
Voilà, autant de travail comparé au temps de travail réalisé par les
Asiatiques. Merci Robert pour cette question. François Marciano, est-ce que les 35 heures, est-ce que les 5 semaines de congés payés sont un problème en France, la productivité ?
Alors, je ne vais pas rentrer sur ce débat-là parce que nous on est une SCOP, hein, donc tous les salariés sont associés et je pense que les 5 semaines dans des métiers aussi durs que les nôtres, c'est compliqué de ne pas en profiter parce que quand vous êtes en bout de ligne à des températures qui peuvent atteindre autour des machines 65 degrés, vous aimez bien prendre des vacances. Donc oui, c'est compliqué. Je dirais ce qui est vraiment, vraiment, vraiment compliqué, c'est les taxes. Hein. On est taxé de tous les côtés, quoi. Hein.
Les impôts.
C'est ça.
Et que vous payez à l'État.
C'est ça.
Mais qui en même temps vous a aidé, l'État, au moment de vos difficultés, il y a un an et demi, je crois que vous aviez reçu un prêt d'ailleurs.
De 750 000 euros, oui, on a eu un prêt de l'État de 750 000 euros. La région nous a aidé avec un prêt d'1 million, hein, et on a eu des prêts bancaires. Ce que tout le monde doit savoir, c'est que ben, l'Europe nous réclame 1,2 million de 2020, qu'un des précédents donc de n'avait pas payé. Hein, donc on doit payer nous 1,2 million. On a, comme on a vendu le terrain et les bâtiments à la métropole pour se financer, vu que personne ne nous suivait, on s'est dit bah, on va vendre à la métropole et on va racheter à la métropole en leaseback, hein, donc sur 15 ans, pour avoir de l'argent immédiatement. Et l'État nous réclame 1,4 million de plus-value. Et donc, quand vous faites le total des taxes, etc., ça fait que l'État vous prend 3 millions. Donc, vous prête 750 000 et vous prend 3 millions de l'autre côté. Donc, ce n'est pas vraiment une aide.
Hein. Vous visiez, François Marciano, dans votre plan de sauvegarde, un chiffre d'affaires de 31 milliards d'euros.
Non,
31 millions, pardonnez-moi, 31 millions d'euros. Oui, là, Duralex serait déjà sauvé.
C'est clair.
31 millions d'euros cette année, est-ce que vous y serez ?
Alors, on sera, je pense, autour des 30 millions. Et on sera autour des 30 millions. On avait prévu 31 avec une marge à 20. On sera, je pense, à 30, mais avec une marge bien supérieure.
À 30, donc ça veut dire un peu en dessous ?
Oui, un peu en dessous.
Un peu en dessous de l'objectif.
Bon, c'est l'épaisseur du trait, mais de toute façon, sur des sommes pareilles, vous n'avez pas une boule de cristal. Et vous dire, c'est sûr que je serai à tel chiffre en fin d'année. Ouais. Hein, c'est là encore maintenant, à un mois et demi de la fin d'année, je suis incapable de vous dire on sera à ça.
Ce qui vous fait dire aujourd'hui que Duralex n'est pas sauvé, François Marciano.
Non, absolument pas. Pour être sauvé, Duralex doit passer cette barre des 35 millions. Les 35 millions, c'est le point zéro dans l'entreprise. Donc, nous devons passer ça. Cette première année, nous avons réveillé, enfin, je pense, hein, j'espère que tout le monde va me le confirmer, mais on a réveillé la marque Duralex. Maintenant, on doit aller plus loin, c'est-à-dire on doit investir dans des nouveaux modèles. On doit vraiment retourner l'entreprise.
Juliette est avec nous, elle nous appelle de Paris. Bonjour Juliette.
Bonjour.
Nous vous écoutons.
Bonjour. Ma question est simple. D'abord, compliment à Duralex et à l'entreprise et aux employés. Et ensuite, ma question est la suivante. Est-ce que directeur de Duralex, monsieur, sait si d'autres entreprises un peu dans le domaine de l'artisanat, enfin de la confection d'objets du quotidien, qui étaient délocalisés à l'étranger, ont eu la même volonté de rapatrier en France. Enfin, je ne sais pas si Duralex était fabriqué à l'étranger, je ne crois pas. Mais
jamais,
parmi les collègues de monsieur Duralex, disons, est-ce que des entreprises qui fabriquaient des objets à l'étranger ont le projet de relocaliser en France ?
Merci Juliette pour cette question. On précise, François Marciano, que la production elle est restée locale, elle est restée dans le Loiret.
Chez Duralex, ça n'a jamais quitté le centre de la France. Hein. Je rappelle, hein, Duralex est positionné à côté d'Orléans et tous ses fournisseurs sont à 550 km, donc 100% français. Alors, pour la question de madame, je suis mal placé pour répondre. Bon, ce que je sais, hélas, c'est que peu de personnes aujourd'hui veulent revenir en France. Hein, donc, c'est hélas compliqué. Mais oui, il faut qu'on se batte tous pour réindustrialiser la France. Moi, ce que je dis toujours, c'est dans les années 80, il y avait 25% d'industrie. Ça allait plutôt pas mal financièrement, la France. Aujourd'hui, tout le monde pleure pour les finances et on est à plus que 9% d'industrie. Faites le rapprochement, vous allez comprendre.
Merci François Marciano d'avoir été avec nous, directeur de Duralex. Donc, levée de fonds réussie, mais toujours incertitude autour de votre avenir. Merci d'avoir été là. On aime bien prendre des nouvelles des sujets que l'on suit dans ce 13-14. Un autre sujet, celui qui a fait la une tout à l'heure à 13h, c'était la remise en liberté demandée pour Nicolas Sarkozy. La justice française va dans son sens. Il va donc être libéré, Delphine Evenou. On vous retrouve au Palais de Justice. Nicolas Sarkozy va sortir de prison.
Absolument, c'est ce qu'avait demandé le parquet ce matin. En tout cas, il ne s'était pas opposé à cette remise en liberté. Elle est accordée, mais la Cour l'a sortie d'un contrôle judiciaire. Nicolas Sarkozy a donc l'interdiction de quitter la France. Il a l'interdiction d'entrer en contact avec des protagonistes du dossier libyen. Je vous rappelle qu'il est mis en examen depuis 2 ans pour recel de subornation de témoins. Là, on est dans l'affaire de la rétractation de Ziad Takieddine, l'homme d'affaires qui avait joué le rôle d'intermédiaire. Et puis, une autre mesure de contrôle judiciaire qui est assez surprenante, la Cour a décidé qu'il ne devait pas rentrer en contact, notamment avec le garde des Sceaux. Vous savez, Jérôme, que Gérald Darmanin
qui était allé le voir.
Voilà, il faut la sérénité des débats, l'indépendance des magistrats. Donc, la Cour, le tribunal, estime qu'il ne doit pas rentrer en contact avec Nicolas Sarkozy.
Ça veut dire qu'il va sortir dans les prochaines heures ?
Absolument, lever des crous cet après-midi.
Cet après-midi,
il ne retournera pas en prison. Enfin, il ne restera pas en prison. Il ne dormira pas en prison ce soir. Voilà.
Libération donc imminente et décidée à l'instant par la Cour d'appel de Paris, mais sous contrôle judiciaire pour Nicolas Sarkozy et avec notamment pour interdiction d'entrer en contact avec le ministre de la Justice, Gérald Darmanin. Merci Delphine Evenou en direct avec les moyens techniques de Mickaël Simon. 13h45 sur Inter. Une semaine dans leur vie. C'est notre feuilleton et cette semaine, nous plongeons dans la vie d'un chef de cuisine à l'école. Sébastien Poitevin, 43 ans, travaille depuis un peu plus d'un an au collège Gambetta. Nous sommes à 40 ans les Marais, c'est dans le département de la Manche. Il prépare avec son équipe plus de 700 couverts. Chaque jour, il connaît le métier, c'est un ancien restaurateur. Il avait son propre établissement sur la côte, mais il a dû fermer. Et à 40 ans, la cantine de Sébastien et de son second Wilfried s'anime dès le petit matin.
Alors le menu du jour, c'est ananas cocktail, donc carottes, pâtes, surimi, ananas, boudin blanc, de pommes, on va faire une sauce aux pommes, une purée maison et éclair au chocolat. Alors ce qu'on va nous préparer surtout pour le lendemain, ça va être le dessert, donc chocolat liégeois parce qu'on en a 500 à faire, donc il faut les faire à l'avance.
Là j'ai 33 litres de lait exactement, 4 kg de sucre, 1,6 kg de cacao, et là je vais mettre 1 kg de fleurs de maïs pour épaissir. Pour faire les crèmes dessert chocolat, on va le mettre à refroidir, comme ça demain on y mettra de la chantilly, les liégeois quoi.
Alors je m'appelle Sébastien Poitevin, je suis chef de cuisine depuis le 1er novembre 2024.
Alors là vous avez les chambres froides, enfin une des chambres froides.
Ici on a le stockage des pommes de terre, donc les pommes de terre qui viennent d'une ferme locale de la Manche.
On essaye en majorité. Ouais.
Là, on est 5 en tout. Et en cuisinier, et après, on a des agents polyvalents qui viennent pour faire les légumes. Généralement, 1 à 2 par jour. Bah, l'épluchage de légumes, les pommes de terre, c'est 130 kg quand on a besoin d'un service de pommes de terre. Donc, il faut les éplucher.
Ça fait du boulot. Ouais. Livraison.
Bonjour.
Le boulanger.
J'ose même pas vous demander les quantités de baguettes. Pour 380 collégiens et à peu près 400 lycéens.
En moyenne, il y a 60-70 pains par jour.
Le pain livré du petit artisan du coin, enfin du petit ou du gros artisan du coin, Cyril Brompton, boulanger à 40 ans, tous les matins, qui nous livre du pain frais.
Vous êtes à combien de kilomètres d'ici, monsieur ? Vous êtes à côté ?
Oui, je suis juste à côté. Hein. Je suis dans le centre-ville de 40 ans depuis... Dans quelques jours, ça fera 29 ans que je suis là. Tous les matins, c'est cette heure-là que je viens.
Bonjour. Et tout. Impeccable.
Ouais.
Merci, au revoir. Quasiment tous les jours avec du poisson frais. Et bon, on est obligé d'avoir un petit stock en cas de non-livraison de surgelé.
Pour les imprévus.
Pour les imprévus. Qui arrivent.
Sébastien, comment vous choisissez vos fournisseurs ?
Bah principalement en local. Bon après il y a aussi le niveau des tarifs.
Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que tous les collèges, on est tenus, c'est par le budget, en fait. On a un budget de...
Un peu moins de 2 euros
par élève, quoi. Donc, c'est surtout ça qui nous tient, quoi. Donc, avec ça, il faut qu'on compose, qu'on arrive à composer des menus équilibrés, le plus possible bio, en circuit court, en local, et puis de faire au mieux, quoi. Enfin, c'est pas simple, ouais. C'est pas simple, mais bon... Là, c'est pour moi qui ai les ficelles, hein. C'est le chef qui commande. Moi,
Qu'est-ce qu'il en pense, le chef ?
Il faut faire attention, tous les jours. Autrement, on n'arrive pas à faire notre budget, mais en faisant attention, on y arrive. Moi, j'y arrive. Donc, les autres doivent y arriver.
Vanessa Descoureaux pour ce premier épisode à la cantine. La suite demain.
France Inter. Le 13-14.
C'est la France. Le lundi 13h49, Cécilia Arbona nous parle d'un lieu qui fait l'actualité. Et aujourd'hui, grâce à vous, Cécilia, nous sommes sur l'île de Noirmoutier. Elle vient d'être désignée première île étoilée de France.
Et il n'est pas question ici d'étoiles décernées à un chef dans un restaurant, mais d'une distinction attribuée par l'Association nationale pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne. Depuis 2022, Noirmoutier en Lille, La Guérinière et Barbâtre ont basculé dans le côté obscur du bleu nuit. Tous les soirs, l'éclairage public est coupé entre 23h et 7h le lendemain matin, et cette bande de terre de 48 km carré au large des côtes de Vendée s'endort sous un plafond noir constellé de petits spots naturels, les étoiles. On a démonté ce que l'on surnommait entre nous les vilaines soucoupes volantes, ces réverbères urbains aux néons fluorescents, raconte Fabien Gabory, qui est le président de la communauté de communes. Et à la place, on a installé des luminaires Montmartre, plus charmants, moins nombreux et équipés d'ampoules LED.
Noirmoutier est aussi engagé dans le programme Neutralité Carbone pour 2040.
Oui, car ce label qui récompense la lutte contre la pollution lumineuse représente une petite partie des engagements de l'île en faveur de l'environnement. Mmh. Des panneaux photovoltaïques flottants vont être installés sur la lagune numéro 8 de la station d'épuration de la Salésière. 3000 foyers seront alimentés grâce à cette électricité. De leur côté, les entreprises doivent respecter un cahier des charges précis, éco-responsable en termes d'emballage ou de déchets. Mmh. Et puis, pour les transports publics, des navettes électriques permettent aux 10 000 habitants qui vivent à l'année sur l'île de se déplacer grâce à un service de desserte de porte-à-porte sur réservation. Enfin, les pistes cyclables vont être étendues et permettront de pédaler sur un ruban de 110 km de long d'ici 2032.
Il y en a déjà beaucoup sur l'île. Ces règles, Cécilia, elles vont aussi bénéficier aux animaux.
Exactement, car plus l'homme se fera discret, plus la faune reprendra ses droits la nuit. Les oiseaux de l'île de Noirmoutier d'abord, les sternes, les avocettes, les hérons cendrés, mais aussi le crapaud pélobate. Pour Anne-Lise Soulard, qui est directrice transition écologique, énergie et mobilité, pour préserver ces espèces, il faut sensibiliser les enfants le plus tôt possible. Nous avons 7 écoles et 2 collèges, précise-t-elle, et nous proposons déjà aux élèves des sorties pédagogiques. Et puis, il y a une convention signée avec le pays du Mont-Blanc, ajoute Fabien Gabory. En fait, on s'échange nos saisonniers avec Megève ou Saint-Gervais-les-Bains. Et quand les salariés ont fini leur contrat au ski, ils débarquent ici au beau jour et ils découvrent un patrimoine à préserver, notre trait de côte, nos dunes et ou encore nos marais salants. Alors, avec son nouveau statut d'île étoilée, je me demande, Jérôme, si Noirmoutier, comme dans une chanson de Francis Cabrel, ne va pas devenir un jour une île enchantée, capable de bâtir un pont entre nous et le ciel.
Merci Cécilia Arbona. Une chanson justement, c'est une chanson, c'est la chanteuse Kerenan qu'on retrouve aujourd'hui à votre micro, Frédéric Pommier.
Kerenan qui vient de faire paraître Paris Amour, son 10e album studio, album qu'elle portera l'année prochaine en tournée. Et c'est de Bruce Springsteen qu'elle a souhaité parler, un artiste qui la bouleverse autant qu'il l'intéresse.
Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, vraiment son écriture. Il raconte l'Amérique. Il ne juge pas ses sujets, juste un récit. Et puis, quand on écoute ses albums qu'il dit écrire dans des chambres d'hôtel, qu'il dit enregistrer sur des 8 pistes, à l'époque, aujourd'hui sûrement sur des logiciels aussi. Ces albums où il est dénudé, où on sent un environnement dépourvu de confort, c'est ça qui m'intéresse parce que ça ressemble à quelque chose que je connais. Ce lieu où je me retrouve avec un piano ou une guitare et un stylo ou un crayon. Et c'est là que je deviens raconteuse. Et donc, ce qui m'intéresse chez Springsteen, c'est ce moment où il est raconteur, parce que c'est là où il était aussi mon professeur, sans le savoir, puisqu'on rentre dans ses artères et il rentre dans les nôtres.
My name is Joe Roberts. I work for the state. I'm a sergeant out of Burnville, barracks number 8. I always done an honest job, as honest as I could. I got a brother named Frankie, and Frankie ain't no good.
Ce morceau, Frédéric, est sorti en 1982. Highway Patrolman.
L'histoire de deux frères dans l'Amérique des années 60, Joe et Frankie. Joe est policier, c'est lui qui raconte. Frankie commet des délits. Joe a épousé Maria, une femme que convoitait aussi Frankie. Et Kerenan retrouve beaucoup d'elle-même dans la composition de cette chanson.
J'aime écrire à la première personne, que l'histoire soit la mienne ou celle d'un autre ou d'une autre. Je me l'approprie pour la raconter. C'est ce qui se passe ici. On sait très bien que Springsteen, il n'a pas de frère délinquant, il n'a pas de femme qui s'appelle Maria. Mais on y croit. Parce que l'émotion, il la connaît. Et j'utilise les mêmes outils pour écrire. Je raconte d'une manière intime des choses qui me sont chères, dont je connais l'émotion. Même si le dessin lui-même a été légèrement modifié de la réalité.
En plus de cela, elle vient vous toucher à quel endroit, cette chanson-là? En plus du processus créatif?
Le rapport au frère. J'ai un frère. Un grand frère. C'est très différent de cette histoire. Mais ce lien sanguin familial me parle. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour défendre un être cher? Comment est-ce qu'on peut protéger notre famille, nos proches, notre micro-environnement pour que la partie la plus vaste de là où on vit soit plus sereine?
C'est un grand frère que vous avez eu envie de sauver à un moment donné de quelque chose?
Ah, j'ai pas la capacité de le sauver, il n'y a que lui qui peut. Mais que j'avais envie de protéger de certaines choses, sauf que c'est pas à moi de le faire.
Vous vous voyez toujours?
Hélas, non.
Et ça vous manque?
Ce qui me manque, c'est une autre époque.
Well, I chased them through them county roads, till a sign said Canadian border 5 miles from here. I pulled over the side of the highway and watched his taillights disappear.
Dans votre dernier album, il y a une chanson qui, d'une certaine manière, s'adresse à ce frère que vous ne voyez plus.
Oui.
Est-ce que vous pensez que vous le reverrez un jour?
Oui, bien sûr. Bientôt. Mais je pense à lui. Voilà, là, aujourd'hui, j'ai pensé à lui. Avec cette chanson.
Elles permettent ça aussi, les chansons?
Elles permettent tout, les chansons.
Man turns his back on his family. He just ain't no good.
Highway Patrolman, Bruce Springsteen. C'était donc, Frédéric, le choix de Kerenan.
Kerenan, dont le dernier album, très beau, a pour titre Paris Amour.
Merci Frédéric et à demain à suivre le fil de l'histoire avec Stéphanie Duncan, loin de Verdun. En quoi la guerre 14-18 fut-elle mondiale? L'historien Michael Bourlet est son invité toute cette semaine.